Les coqs chantent les jours pareils, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Une paysanne m'a dit que la pire création du Dieu, c'est l'être humain. Aujourd'hui, nous avons à répondre à une question difficile. Peut-on concilier sécurité alimentaire et conservation de la biodiversité? Et pour cela, nous avons le concours des techniciens de l'Agence française de développement et ceux du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD qui nous reçoivent sur leur stand commun dans le hall 4 du Salon international de l'agriculture de Paris édition 2020. Les chercheurs et les acteurs de terrain sont formels. Partout sur la planète, il y a une perte massive de biodiversité. Cette perte de la biodiversité, appelée aussi déclin de la biodiversité ou érosion de la biodiversité, est une crise écologique qui implique l'extinction des espèces dans le monde entier, ainsi que la réduction ou la perte d'espèces locales dans un habitat donné et la disparition d'écosystèmes. Et la question concerne tous les continents. En Afrique, près de 500 000 km² de terre sont déjà dégradés. En Asie-Pacifique, 60% des prairies sont dégradées et 80% des rivières les plus polluées par les déchets plastiques dans le monde se trouvent dans cette zone. En Europe et en Asie centrale, 42% des animaux terrestres et des plantes, 71% des poissons et 60% des amphibiens ont enregistré un déclin de leur population au cours de la dernière décennie. Il faut donc agir contre cette perte de la biodiversité qui menace la vie humaine. Et dans le même temps, il faut continuer à nourrir et soigner une population mondiale en constante augmentation. Sur le stand du CIRAD AFD, notre premier interlocuteur se nomme Gilles Claise, directeur pour l'agriculture, l'eau et la biodiversité à l'Agence française de développement. L'AFD, comme on a coutume de le dire, est une institution financière publique qui œuvre pour le renforcement des filières agricoles dans le monde et la préservation de la biodiversité. Ici, on parle des agricultures alliées à la biodiversité.
Ce terme, c'est en fait l'idée qu'il faut absolument réconcilier les discours sur la biodiversité, les patrimoines naturels, la forêt, la fertilité des sols, les océans, voilà. Et puis, par ailleurs, tout ce dont on a besoin de faire sur l'agriculture. Agriculture, biodiversité, ça doit marcher ensemble et ça marche ensemble en général.
Moi, je vais vous demander un exercice. La biodiversité, qu'est-ce que c'est ?
C'est la diversité du vivant. Voilà, et la diversité du vivant, on la décrit à trois niveaux. On la décrit à un niveau génétique, donc dans une même espèce, les gens ou les individus sont un petit peu différents.
Les hommes.
Les hommes, voilà, on peut le dire par exemple, mais aussi le sorgho, aussi le cacao, aussi le bananier, aussi tel arbre.
Parce que vous avez le sorgho rouge, blanc, brun.
Voilà, exactement. Donc tout ça, c'est la diversité génétique. C'est la même espèce, c'est les mêmes plantes en gros, mais il y a une petite différence et parfois... Voilà, il y en a une qui est plus résistante à telle maladie, il y en a une qui est plus adaptée à tel sol, il y en a une qui pousse mieux sous tel climat. Et c'est pour ça que cette diversité génétique, elle est très importante, pour l'agriculture en particulier.
Ça, c'est la première forme.
C'est la première forme. La deuxième forme, c'est la diversité entre les espèces. Par exemple, vous avez en Afrique plus de 30 sortes d'antilopes et de gazelles différentes. Voilà, ça, c'est la diversité entre les espèces. Vous avez un éléphant d'Afrique et un éléphant d'Asie. Ça, c'est la diversité entre les espèces, voilà. Et puis ensuite, vous avez un troisième niveau de diversité, c'est la diversité des écosystèmes. Il y a la savane, il y a la forêt, il y a les océans, il y a les mangroves, les déserts. Voilà, tout ça, c'est la diversité des écosystèmes. Donc si vous mettez tout ça ensemble, les écosystèmes, les espèces, la diversité génétique au sein des espèces, c'est ce qu'on appelle la diversité biologique.
On parle de perte de biodiversité. Quelles sont les causes ?
Les causes de la perte de la biodiversité sont la conversion d'habitats naturels en habitats agricoles ou urbains.
C'est-à-dire qu'on déboise et puis on sème.
Voilà, c'est le déboisement. Vous avez également tout ce qui est surexploitation des espèces. Donc par exemple, on chasse trop ou on pêche trop. Voilà. La troisième cause, c'est les pollutions. Donc on met des poisons dans l'environnement. Par exemple, des eaux non épurées se vident dans une rivière et tuent tous les poissons. Ou par exemple, on utilise trop de pesticides et on tue tous les insectes. Voilà, ça c'est vraiment la pollution, si vous voulez. Après, la quatrième raison, c'est le changement climatique lui-même qui est en train d'affecter de façon de plus en plus profonde le fonctionnement des écosystèmes, la reproduction des espèces, ce qu'ils ont à manger, hein, ou même leurs maladies se développent et ils ne sont pas adaptés. Et la cinquième cause, c'est ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes. Donc vous avez des invasions biologiques, comme les choses circulent de plus en plus sur la planète, et il y a beaucoup de semences, beaucoup de gènes, beaucoup de microbes qui circulent de partout. Et ça, eh ben, ça crée des tas de problèmes à la diversité biologique.
Mais là, vous parlez d'actualité, là, parce qu'on a le virus de la tomate. On ne sait pas comment il a fait pour arriver en Europe. Coronavirus, il y a la mouche de la mangue qui habituellement était en Amérique du Sud qui s'est retrouvée en Afrique occidentale.
Tout à fait, donc vous voyez, tous ces êtres vivants, ils se dispersent dans la planète et parfois ils arrivent dans des endroits où ils causent problème. Parfois c'est des microbes et des pathogènes, mais parfois c'est simplement des espèces parce qu'ils sont bien adaptés.
Ils vont... On a vu les criquets en Afrique de l'Est.
Les criquets, par exemple, en ce moment, c'est terrible. Il y a vraiment un énorme problème. Ça, c'est à la fois des espèces invasives. Alors les criquets, ils sont natifs, ils sont là, mais c'est aussi lié au réchauffement climatique puisqu'il y a des très bonnes conditions, notamment de chaleur, pour la reproduction des criquets. Et là-dedans, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que et biodiversité et climat sont extrêmement liés. C'est le vivant qui a créé l'atmosphère terrestre dans des temps immémoriaux. Et maintenant, ce lien entre les organismes vivants, les forêts, les océans et l'atmosphère, on en a besoin pour stabiliser l'atmosphère.
Quels sont les effets de cette perte de biodiversité ?
Les effets de cette perte de biodiversité peuvent être des pertes de fertilité des sols. Donc par exemple, quand on détruit la biodiversité d'un sol avec des systèmes agraires, des systèmes de culture inappropriés, vous avez destruction de la matière organique des sols, le sol perd sa fertilité, le sol perd son vivant, les nématodes, tous les lombriques, tous les organismes qui vivent dans la terre et qui dégradent la matière organique et la transforment en nutriments. Tout ça est perdu et au bout du compte, vous avez un sol qui devient stérile et où on ne peut plus cultiver quoi que ce soit.
Tout ça, c'est des défis que votre organisation, l'Agence française de développement, a relevé. J'en ai visité certains, que ce soit en Europe ou sous les tropiques.
Oui, tout à fait. Donc on finance effectivement de plus en plus et de façon quasi majoritaire des approches agroécologiques qui vont mobiliser ces techniques sur le café, sur le cacao, sur le coton, sur les cultures vivrières, sur la riziculture de bas-fonds. On essaye à chaque fois de favoriser ces approches vraiment d'agroécologie durable et résiliente, notamment dans les contextes de changement climatique, où on a vraiment besoin de sols de qualité, sinon on va droit à la catastrophe et à la désertification ou à la perte de fertilité en tout cas.
Mais j'ai regardé votre catalogue avant de venir, et il y a beaucoup d'actions en direction de l'agriculture familiale et surtout en direction des femmes.
Oui, tout à fait. Donc on est très sensible aux questions de genre et on est absolument focalisé sur l'agriculture familiale qui concerne à peu près 85% de la production sur le continent africain en particulier. Donc effectivement, apporter des solutions qui soient adaptées à la petite agriculture familiale qui répondent à ces opportunités, mais aussi à ces contraintes, notamment en matière de conseils agricoles, d'accès aux techniques et aux intrants, tout ça est essentiel. Et là-dedans, on est On est absolument convaincu que les femmes jouent un rôle majeur en tant que gestionnaires, en tant que force de travail, en tant que dépositaires de connaissances pour la production agricole et pas seulement pour les cultures vivrières, hein, pour l'ensemble de l'exploitation agricole africaine.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Président du CIRAD, avec Madame Elisabeth Claverie de Saint-Martin, directrice générale déléguée recherche et stratégie de cette organisation. Rappelons que le CIRAD, c'est l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Dans une cinquantaine de pays sur tous les continents, le CIRAD mobilise les compétences de ses 1650 salariés, dont 800 chercheurs, et s'appuie sur un réseau mondial de partenaires. Avec ses partenaires, il est convaincu du rôle central que doit jouer l'agriculture dans les grandes transitions pour assurer un avenir soutenable à tous les pays du Sud.
C'est une institution de recherche d'à peu près 1800 personnes, dont 1000 scientifiques, qui a un mandat de recherche appliqué pour le développement et qui est sous la double tutelle du ministère de la Recherche, puisque ce sont des chercheurs, et du ministère des Affaires étrangères, puisque nous travaillons quasi exclusivement dans les pays en développement et aussi dans les territoires d'outre-mer parce qu'ils ont des climats et donc des spécificités agraires qui sont similaires à celles des zones tropicales autres dans lesquelles nous travaillons.
Donc il y a la recherche,
oui.
Ça c'est un laboratoire,
oui.
La recherche appliquée,
oui.
Ça c'est ce que vous faites.
Exactement, nous on fait de la recherche appliquée depuis la molécule, de la génétique jusqu'au niveau le plus global, c'est-à-dire le marché, donc on travaille au niveau des semences, de la génétique, on travaille aussi au niveau de la parcelle, de l'exploitation, mais aussi on étudie les tendances, notamment nos économies, c'est la tendance des marchés. Et on a une autre spécificité, c'est qu'on travaille beaucoup sur le terrain, puisqu'on a plus de 200 chercheurs qui sont positionnés, donc plus d'une centaine en Afrique, et qu'on travaille qu'avec des partenaires. On ne travaille jamais tout seul, le CIRAD n'existe pas tout seul, il n'y a pas de bannière CIRAD. Quand nous sommes notamment en Afrique, nous sommes chez nos partenaires, qui peuvent être des institutions de recherche, qui peuvent être aussi des petits producteurs, qui peuvent être des universités. Donc nous sommes jamais seuls, nous travaillons jamais seuls.
Madame, je viens de lire votre dossier de presse et je vous ai écouté lors de la conférence tout à l'heure. Vous ne laissez pas d'illusions aux gens. Vous dites qu'il faut 40 ans pour établir une terre dégradée. Par contre, il faut 3 ans pour la détruire.
Oui, c'est ce qui s'est passé dans certains pays, notamment par exemple au Burkina Faso qui a fait de l'exploitation de coton, qui a monté en rendement, qui a fait beaucoup d'entrants et qui est revenu vers nous, mais vers d'autres organisations en disant « j'ai un problème, mes terres ne produisent plus ». Et oui, ce qui s'était passé, ça s'est passé à une époque où on n'avait pas toutes les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui. Il est clair que le gouvernement n'avait pas été informé des conséquences probables. C'est que le coton intensif en intrants a détruit une partie des terres du Burkina qui la rendent aujourd'hui impropre à une culture à bon niveau. Et c'est bien sûr un drame qu'il faut essayer d'éviter dans d'autres pays, c'est-à-dire les terres, essayer de faire en sorte que l'utilisation des intrants, notamment des pesticides, des fongicides, soit une utilisation efficace et raisonnée.
Je vais essayer de comprendre parce qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Les plantes ont des racines qui ne puisent pas les nutriments au même niveau. Alors si j'utilise du coton pendant 10, 20, 30 ans, en fait j'y puise le sol toujours au même niveau. Et en plus j'ajoute des intrants qui ne sont pas toujours les bienvenus.
Bah, vous avez tout compris, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé vers de la monoculture, là où en Afrique, avant, il y avait une polyculture, une grande diversité d'utilisation, où les plantes fourragères côtoyaient d'autres espèces, où on avait aussi une alternance, et où pendant 3-4 ans, on avait certaines cultures, puis d'autres. Et on est allé vers un mode de culture qui a été celui qu'a adopté l'Europe ces 30 dernières années, avec un succès sans doute très fort en matière d'accès de la population aux aliments, mais avec aujourd'hui des conséquences écologiques importantes et qu'on mesure chaque jour. Et donc déjà retrouver cette diversité des cultures, c'est la meilleure protection pour la biodiversité, mais c'est aussi la meilleure protection pour la sécurité alimentaire et la santé des populations qui vivent sur ces terrains, parce qu'elles se nourrissent aussi de ce qu'elles cultivent, et que cette diversité, c'est absolument essentiel en termes de nutriments.
Bah, c'est-à-dire que quand nous on fait les choses, on ne fait pas les choses à moitié. J'ai lu qu'il y avait 4000 plantes alimentaires, et aujourd'hui, seules 4 couvrent 60% des besoins caloriques dans le monde.
Oui, c'est un véritable drame. Alors, je dirais que c'est encore là aussi. L'Europe n'est pas forcément le bon élève, mais il y a quand même un drame en Afrique, c'est la banane. La banane dessert, où en fait, on n'a qu'une seule espèce qu'on cultive, et on est extrêmement attentif à ce qu'il ne se passe pas la même chose sur l'autre grande banane dont on parle peu en Europe, mais sur laquelle nous, on travaille beaucoup, qui est la banane plantain.
Ah là, si vous parlez de plantain, je regarde l'heure, il est 13h là, madame. Donc, vous ne souhaitez pas que ce qui est arrivé sur la banane dessert?
Absolument pas. Il est fondamental de garder une diversité des bananes plantains. Il y a une diversité extrêmement forte. Ça ne veut pas dire ne pas regarder comment, à partir de certaines espèces, on peut faire de l'amélioration variétale pour avoir des espèces plus productives. Mais il y a des bananes plantains pour chaque bassin. Elles sont parfaitement adaptées. Et la banane plantain, en termes nutritionnels, c'est un excellent produit. L'Afrique doit pouvoir nourrir une grande partie de sa population à partir de ce qu'elle produit.
Nous parlons d'Afrique, mais il n'y a pas qu'en Afrique que les CIRAD intervient.
Non, on travaille beaucoup en Amérique latine et on travaille beaucoup en Asie. En Amérique latine, on travaille à la fois sur beaucoup de problématiques d'alimentation, puisque les pays d'Amérique latine sont des pays intermédiaires, à revenus intermédiaires, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème de qualité de la nutrition. Il y a aussi de gros problèmes d'inégalité. Et puis, il y a d'énormes problèmes de déforestation. Nous sommes présents dans l'Amazonie. Donc, avec l'AFD, nous avons des projets où nous essayons de voir comment, avec les petits agriculteurs qui travaillent dans l'Amazonie, on peut avoir des cultures qui respectent la forêt, voire qui permettent le reboisement. On est sûr que c'est possible. Il y a des difficultés sûrement à un niveau plus élevé, hein, qui n'est pas le niveau local. Mais c'est localement que les choses se passent et on a aussi des messages d'espoir de cette partie-là du monde. Et puis en Asie, l'Asie c'est très intéressant parce que c'est un véritable laboratoire sur toutes les problématiques dont on parle, à la fois de biodiversité mais aussi de sécurité alimentaire et de santé. Et il faut qu'on ait, notamment sur l'Afrique de l'Ouest, où nous on milite beaucoup auprès des bailleurs pour ça, on a besoin d'un système intégré, performant de santé.
Je vous le baisse.
Merci beaucoup.
Nous étions sur le stand conjoint de l'Agence française de développement AFD et du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD au Salon de l'agriculture à la porte de Versailles à Paris. Et il était question aujourd'hui de la sécurité alimentaire et de la conservation de la biodiversité. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour nous écrire lecoqchante@rfi.fr, et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vraiment vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.